France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, 8e entretien, pratique et théorie, la rage de l'expression, le grand recueil.
Ce qui m'a frappé quand vous avez parlé de l'huître lors du dernier entretien, c'est trois observations. D'abord, j'ai remarqué que les problèmes de dimension se trouvaient particulièrement bien posés. Vous nous avez parlé de l'huître comme s'il s'agissait d'un monde cosmique, n'est-ce pas? Ça me paraît très intéressant, une première observation. Une seconde observation, c'est que dans tout texte de vous, il me semble qu'on pourrait trouver une allégorie du texte lui-même. C'est-à-dire que le texte se désigne lui-même dans sa fin. Et la troisième, c'est que l'épaisseur sémantique, comme vous dites, et l'épaisseur donc physique se trouvent à tout moment valoir l'une pour l'autre, n'est-ce pas ? Je voudrais maintenant que nous abordions la rage de l'expression et que les observations là que je viens de dire très brièvement, vous nous disiez comment elles se transforment, elles s'étendent, elles s'ouvrent dans ce recueil, prenons si vous voulez l'œillet.
Bon, alors, d'abord, je réponds à votre question dernière, n'est-ce pas? Comment ça s'est fait que je suis passé de la forme close de l'huître, par exemple, à la forme que vous allez constater dans les textes de l'âge de l'expression et notamment dans l'œillet? Eh bien, c'est d'abord parce que j'en ai eu assez de faire toujours la même chose, n'est-ce pas? Que je m'ennuie vite et que ce n'est pas parce que le Parti pris des choses a eu un certain succès que j'ai voulu m'enfermer là-dedans. Ce qui m'importe, c'est de me changer. Et c'est aussi parce qu'il m'a semblé utile de mettre sur la table, comme je l'ai dit dans un entretien précédent, de mettre sur la table la démarche intellectuelle, le travail. L'œillet commence par des déclarations proprement métatechniques, si vous voulez, ou méthodologiques. Je commence à lire. Relever le défi des choses au langage. Par exemple, ces œillets défient le langage. Je n'aurai de cesse, avant d'avoir assemblé quelques mots, à la lecture ou l'audition desquels l'on doit s'écrier nécessairement, c'est de quelque chose comme un œillet qu'il s'agit. Est-ce la poésie? Je n'en sais rien et peu importe. Pour moi, c'est un besoin, un engagement, une colère, une affaire d'amour propre, voilà tout. Je ne me prétends pas poète. Je crois ma vision fort commune. Étant donné une chose, la plus ordinaire soit-elle, il me semble qu'elle présente toujours quelques qualités vraiment particulières sur lesquelles, si elles étaient clairement et simplement exprimées, il y aurait opinion unanime et constante. Ce sont celles que je cherche à dégager. Quel intérêt à les dégager ? Faire gagner à l'esprit humain ces qualités dont il est capable et que seule sa routine l'empêche de s'approprier. Quelles disciplines sont nécessaires au succès de cette entreprise? Celles de l'esprit scientifique, sans doute, mais surtout beaucoup d'art. Et c'est pourquoi je pense qu'un jour, une telle recherche pourra aussi, légitimement, être appelée poésie. L'on apercevra par les exemples qui suivent, l'œillet n'est qu'un de ces exemples, quels importants déblais cela suppose ou implique, à quels outils, à quels procédés, à quelles rubriques l'on doit ou l'on peut faire appel, au dictionnaire, à l'encyclopédie, à l'imagination, au rêve, au télescope, au microscope, aux deux bouts de la lorgnette, au verre de presbyte et de myope, au calembour, à la rime, à la contemplation, à l'oubli, à la volubilité, au silence, au sommeil, etc. L'on apercevra aussi quels écueils il faut éviter, quels autres il faut affronter, quelle navigation, quelle bordée et quel naufrage, quel changement de point de vue. Il est fort possible que je ne possède pas les qualités requises pour mener à bien une telle entreprise, en aucun cas. D'autres viendront qui utiliseront mieux que moi les procédés que j'indique, ce seront les héros de l'esprit de demain. Un autre jour. Quoi de particulier en somme dans le naïf programme, valable pour toute expression authentique, exposé solennellement ci-dessus? Sans doute seulement ceci, le point suivant. Où je choisis comme sujet, non des sentiments ou des aventures humaines, mais des objets les plus indifférents possibles. Où il m'apparaît, instinctivement, que la garantie de la nécessité d'expression se trouve dans le mutisme habituel de l'objet. À la fois garantie de la nécessité d'expression et garantie d'opposition à la langue aux expressions communes. Évidence muette opposable. 1. Ce sont des choses tirées du dictionnaire. Opiniâtre, fortement attaché à son opinion. Papillote, papillon, papille, c'est le même mot que vaciller. Déchirer, d'un mot allemand, scheran, déchiqueter. Dents et dentelles. Chiffon, crème, crémeux, œillet, liné, lapel, bouquet parfait, bouquet tout fait, etc. Il y a toute une suite d'expressions prises au dictionnaire. 2. L'opposé aux fleurs calmes, rondes. Arôme, lisse, camélia, tubéreuse. Non qu'elle soit folle, mais elle est violente, quoique bien tassée, assemblée dans des limites raisonnables. À bout de tige, hors d'une olive d'un gland souple de feuilles, se déboutonne le luxe merveilleux du linge. Œillet ces merveilleux chiffons. 4. À les respirer, on éprouve le plaisir dont le revers serait l'éternuement. À les voir, celui qu'on éprouve à voir la culotte déchirée à belles dents d'une fille jeune qui soigne son linge. 5. Pour se déboutonner, voir bouton, voir aussi cicatrice. Bouton, vu. Il ne faut pas rapprocher bout et bouton ni déboutonner dans la phrase, car c'est le même mot. De bouter, pousser. 6. Et naturellement, tout n'est que mouvement et passage, sinon la vie, la mort serait incompréhensible. Si bien qu'inventerait-on la pilule à dissoudre dans l'eau du vase pour rendre l'œillet éternel, en nourrissant de sucs minéraux ses cellules. Cependant, il ne survivrait pas longtemps en tant que fleur, la fleur n'étant qu'un moment de l'individu, lequel joue son rôle comme l'espèce le lui enjoint. Ces 6 premiers morceaux, la nuit du 12 au 13 juin 1941, en présence des œillets blancs du jardin de Madame Dugour. 7. À bout de tige, se déboutonne, hors d'une olive souple de feuilles, un jabot merveilleux de satin froid, avec des creux d'ombre de neige viride, où siège encore un peu de chlorophylle et dont le parfum provoque à l'intérieur du nez un plaisir juste au bord de l'éternuement. Je passe sur 2 ou 3 textes, j'arrive au 10. Jabot, chiffon, papillote ou mouchoir, harde, fripe, haillon, bouillon de linge ou ruche de satin froid, riche, opulent assemblage, compétition, association, manifeste, réunion de pétales d'un tissu humide froidement satiné, foule sortant en delta de la communion, ou culotte à belles dents de fille soigneuse de son linge, répandant des parfums d'une sorte à chaque instant qui risque quel plaisir de vous mettre au bord de l'éternuement. Trompettes pleines, gorgées, bouchées par la redondance de leur propre expression, gorges entièrement bouchées par des langues, leurs pavillons, leurs lèvres déchirées par la violence de leurs cris, de leurs expressions, froncées, froissées, frisées, fripées, frangées, festonnées, fouettées, chiffonnées, bouclées, gondolées, tuyautées, gaufrées, calamistrées, tailladées, déchirées, pliées, déchiquetées, ruchées, tordues, ondées, dentelées, crémeux, écumeux, blancs, neigeux, homogène, uni, bouquet parfait, bouquet tout fait, hors du gland souple de l'olive souple et pointue qu'il fait s'entrouvrir, qu'il fend au bout de sa tige, fin bambou vert, aux renflements espacés, polis et langus aussi simplement que possible, ainsi, aux approches de juillet, se déboutonne l'œillet. 14. O, fendu en OE. O, bouton d'un chaume énergique, fendu en OEI. L-L-E-T. L'herbe aux rotules énergiques. Elle, aux vigueurs juvéniles. Elle, la lettre, aux apostrophes symétriques. O, l'olive souple et pointue, dépliée en E, I, 2-L-E-T. languettes déchirées par la violence de leurs propos, satin humide, satin cru. Mon œillet ne doit pas être trop grand-chose, il faut qu'entre deux doigts on le puisse tenir. 15. Rhétorique résolue de l'œillet. Je reviens à une autre façon d'écrire après l'emballement sur les mots et les expressions. Parmi les jouissances comportant leçons attirées de la contemplation de l'œillet, il en est de plusieurs sortes, et je veux, graduant notre plaisir, commencer par les moins éclatantes, les plus terre-à-terre, les plus basses, les plus près du sol et les plus solides peut-être, celles qui sortent de l'esprit, en même temps que sort de terre la petite plante elle-même. Cette plante d'abord ne diffère pas beaucoup du chien-dent. Elle s'agrippe au sol qui paraît en cet endroit à la fois tôlé et sensible, comme une gencive que percent des canines pointues. Si l'on cherche à extraire la petite touffe, l'on n'y parvient pas sans difficulté, car l'on s'aperçoit qu'il y avait là-dessous une sorte de longue racine soulignant horizontalement la surface du sol, une longue volonté de résistance très tenace, relativement très considérable. Il s'agit d'une espèce de corde fort résistante et qui déroute l'extracteur, le force à changer la direction de son effort. C'est quelque chose qui ressemble fort à la phrase par laquelle j'essaie actuellement de l'exprimer, quelque chose qui se déroule moins qu'elle ne s'arrache, qui tient au sol par mille radicules adventices et dont il est probable qu'elle cassera net, sous mon effort, avant que j'aie pu en extraire le principe. Connaissant ce danger, je le risque vicieusement, sans vergogne, à différentes reprises. Assez là-dessus, n'est-ce pas? Lâchons la racine de notre œillet. Nous la lâcherons, certes, mais revenus à un état d'âme plus tranquille, nous nous demanderons, pourtant, avant de laisser nos regards monter vers la tige, nous asseyant dans l'herbe, par exemple, non loin de là, et la contemplant sans plus y toucher, les raisons de cette forme qu'elle a prise. Pourquoi une corde et non un pivot ou une simple arborescence souterraine comme les racines d'habitude? Nous ne devons pas céder en effet à la tentation de croire que ce soit seulement pour nous causer les tracas que je viens de décrire que l'œillet se comporte ainsi, mais on peut déceler peut-être dans le comportement du végétal une volonté d'enlacer, de ficeler la terre, d'en être la religion, les religieux et par conséquent les maîtres. Mais revenons à la forme de ces racines. Pourquoi une corde plutôt qu'un pivot ou qu'une arborescence comme les racines d'habitude? Il peut y avoir eu au choix de ce style deux raisons, valables l'une ou l'autre, selon que l'on décidera qu'il s'agit d'une racine aérienne ou d'une tige rampante, au contraire. Peut-être s'il s'agit d'un arbuste atrophié, d'un arbuste las et sans force et sans assez de foi pour s'élever verticalement du sol. Peut-être quelque expérience millénaire lui aura-t-elle appris qu'il valait mieux réserver son altitude à sa fleur. Ou peut-être cette plante doit-elle conduire à travers une vaste étendue de terrain la quête des rares principes convenables à la nourriture de l'exigence particulière qui aboutit à sa fleur. L'ampleur même de ces paragraphes consacrés à la seule racine de notre sujet répond à un souci analogue, sans doute. Mais voici la mesure atteinte. Sortons de terre à cet endroit choisi. Ainsi, voici le ton trouvé, où l'indifférence est atteinte. C'était bien l'important. Tout à partir de là coulera de source une autre fois. Et je puis bien, aussi bien, me taire. Quand je parle d'indifférence, il est évident qu'il s'agit de l'indifférence entre la chose et les mots, entre les expressions et la chose elle-même. Il ne s'agit pas de l'indifférence sentimentale.
Je voudrais savoir si vous seriez d'accord avec la formulation suivante. Ce serait en somme... Lorsque le texte s'établit au plus près de son rapport avec lui-même et se décrit en se faisant, que l'on serait à la fois le plus rigoureux et le plus pénétrant par rapport à ce qu'on appelle généralement le référent ou le monde extérieur. C'est donc lorsque le fonctionnement signifiant lui-même serait constamment redoublé, constamment relancé, que, très étrangement, le monde dit extérieur serait exploré au plus près. Je voudrais que vous nous expliquiez comment cette structure qui me semble vraiment fondamentale chez vous se trouve transformée dans la scène.
La scène, oui, j'ai écrit cela vers 47 sur commande. J'en suis arrivé à faire un texte qui demande une certaine attention quand on le lit, n'est-ce pas? Parce que il m'a semblé qu'il fallait que là, j'aille vraiment à la science. Et j'ai beaucoup lu de livres scientifiques à propos d'une part de l'état liquide de la matière, par exemple celui de Darmois, n'est-ce pas, et d'autre part des livres de haute géographie, de géographie générale, le meilleur livre étant celui d'Emmanuel de Marton, n'est-ce pas, qui était un grand écrivain, entre parenthèses, parmi les meilleurs écrivains de la fin du 19e siècle et du commencement du 20e. Alors, je suis allé là et j'ai pillé ces textes. Je le dis même en note dans la dernière édition de ce texte qui a été repris dans mon ouvrage tome premier, n'est-ce pas, que j'ai jonglé avec des expressions prises dans ces livres savants et même avec des paragraphes entiers, n'est-ce pas. Là, je rejoins ce qui a été proclamé de la façon la plus violente par l'autre amont, nécessité du plagiat, si on veut. J'emploie le mot le plus fort pour dire que la poésie ne doit pas être faite par un, mais par tous, n'est-ce pas, et qu'on prend son bien où on le trouve. Il s'agit simplement que cela entre de façon, que le tout fasse quelque chose d'homogène, et qu'il s'agisse d'un raisonnement pour lequel on a besoin de choses prises ailleurs. Il s'est trouvé, n'est-ce pas, que là, on m'avait beaucoup reproché, à propos du Parti pris des choses, de ne m'occuper que des objets solides. C'est un des leitmotifs de l'interprétation de Sartre et aussi de celle de Camus, que j'étais un écrivain pour les objets du solide. Là, j'avais donc à m'occuper du liquide, ce qui était particulièrement intéressant pour moi. Et j'en suis arrivé, bien sûr, à penser, comme je l'ai dit dans le texte, que finalement, il y avait moins d'utopie, si vous voulez, à réaliser l'adéquation des textes au liquide qu'au solide. Enfin, tout cela est expliqué et dit dans le livre. Et cela a une certaine importance, et je ne peux pas y insister beaucoup. Je faisais cela également à un moment assez particulier de l'histoire, si l'on veut. N'est-ce pas? Je vous ai dit que j'étais sorti du Parti communiste, ou j'étais sur le point d'en sortir. Et pour des raisons précises, en particulier le sectarisme de l'époque. À ce moment-là, on commençait à être obligé de dire, par exemple, que M. Faulkner, parce qu'il était américain, n'avait absolument pas aucun talent. Il y avait de nouveau une tentative de direction de l'art, de la littérature et des beaux-arts. C'était Fougeron qui était le plus grand peintre, etc., etc. Il semblait tout de même qu'une chose échappait à cela, c'était la science, n'est-ce pas? Un peu plus tard, il y a eu une tentative aussi pour mettre la science au pas, n'est-ce pas? Mais il semblait à ce moment-là que la science échappait à cela. Je traite de cette question également dans la scène, n'est-ce pas? En indiquant que si la science fait appel à quelque chose comme l'hypothèse, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire à quelque chose qui dépend de l'esprit humain dans sa fonction, comment dirais-je, la plus profonde, enfin, c'est-à-dire au rêve, si l'on veut, à la fantaisie, au sommeil. Quand Newton a-t-il trouvé? Quand il s'est allongé sous un pommier, n'est-ce pas? Évidemment, il avait beaucoup réfléchi avant. Mais c'est au moment de son repos qu'il a trouvé. Et on pourrait en dire autant d'Archimède, enfin, qui était dans son bain quand il a trouvé. C'était pas du tout quand il était à sa table de travail. Si donc on doit faire appel aux facultés intuitives et la division de l'esprit, n'est-ce pas, en raison et en intuition, est une des antinomies significatives du monde occidental, n'est-ce pas, depuis très longtemps, et c'est cela qu'il faut réduire en même temps que beaucoup d'autres antinomies, n'est-ce pas? Eh bien, si la science admet que l'hypothèse est importante, eh bien, alors, pourquoi pas tout le reste? Eh bien, comment ce livre va-t-il être? Comment vais-je faire pour agglomérer les connaissances rationnelles, scientifiques, avec mes intuitions? S'il est vrai que la science, dont la fin n'est pas seulement connaissance mais puissance, doivent s'appuyer pour commencer sur de solides définitions et d'autre part se confier parfois à la paresse et dans une certaine mesure au hasard de la contemplation, alors peut-être mon entreprise n'est-elle pas folle ni totalement injustifiée. Car ce sont bien des définitions que je prétends formuler, mais telles que n'impliquant nullement que j'ai fait d'abord table rase, mais plutôt rassemblé au contraire en un premier temps, les connaissances déjà élaborées, aussi bien en moi-même, sur chaque sujet. Elles contiennent également des éléments nouveaux et, si l'on veut, une part du futur de nos connaissances sur le même sujet. Mais comment y parviens-je? Si j'y parviens, voici le point important, en repétrissant avec les connaissances anciennes, les acceptions morales et symboliques et toutes les associations d'idées, la plupart du temps très variées et contradictoires auxquelles cette notion peut ou a pu donner lieu, y compris celles habituellement considérées comme puériles, gratuites et sans intérêt, celles-là même de préférence peut-être parce qu'ayant plus de chance d'apporter quelque élément non encore utilisé. Si bien que par l'agglomérat de toutes ces qualités ou qualifications contradictoires, et plus elles sont contradictoires et semblent irrationnelles, mieux cela vaut, j'obtiens un conglomérat neutre, dépourvu de toute tendance ou résonance morale, propre à offusquer les vérités nouvelles et inouïes dont je désire passionnément qu'elles s'y incorporent, et de la sorte, effectivement, elles s'y incorporent. Il ne s'agit que d'un retour, d'un incessant appel au concret, à la fois par le pétrissage, la perte dans la masse des acceptions logiques, et par la considération attentive de l'objet, la volonté d'imitation logique ou de nomination sans choix, non seulement de ses qualités distinctes, mais de son comportement total, de son unité, de sa différence, de son style. Je conçois bien qu'il s'agit là d'une tentative dont l'ambition et les difficultés sont inouïes, c'est pourquoi sans doute je dois maintenant à chaque propos les rappeler, afin de m'exhorter à les vaincre et d'abord de ne les sous-estimer. Et puis qu'il s'agit de la scène et d'un livre à en faire, d'un livre qu'elle doit devenir, allons, allons, pétrissons à nouveau ensemble ces notions de fleuve et de livre, voyons comment les faire pénétrer l'une dans l'autre, confondons, confondons sans vergogne la scène et le livre qu'elle doit devenir. Et d'abord, faut-il que je couche mon papier dans le sens large et ne résiste même peut-être à la tentation de le plier en deux, etc., etc.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. C'était aujourd'hui le 8e entretien. Pratique et théorie, la rage de l'expression, le grand recueil. Assistant Jacques Devin. Vendredi 5 mai à 22h40, 9e entretien, pratique et théorie, l'objet.